Le quart d'heure corésien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM et RGB.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 13e numéro du quart d'heure corésien. Olivier Serrat, bonjour.
Bonjour Thomas Vandendrich.
Ensemble, durant ce prochain quart d'heure, nous allons retracer les informations que nous avons jugées importantes cette semaine en Corée. Nous vous proposons de revivre l'ensemble des mobilisations contre la réforme des retraites qui se sont tenues cette semaine. Vous entendrez les inquiétudes des manifestants, mais aussi leur détermination. Et puis c'est notre deuxième information de la semaine. Malgré des petites pluies et des orages de ces dernières heures, la sécheresse est bel et bien présente dans le département. Une sécheresse aux impacts multiples, vous l'entendrez. Le quart d'heure corésien, vous avez le menu, c'est parti. La semaine qui s'achève a été marquée par de nombreux mouvements sociaux. Depuis mardi dernier, et c'est du jamais vu en Corrèze depuis très longtemps, pas un jour ne s'est passé sans qu'il n'y ait eu de mobilisation. Alors pour comprendre ce qu'il s'est passé, Olivier Serrat, vous nous proposez un petit carnet de bord de ces mobilisations.
Oui, parce que l'intersyndicale corrézienne qui coordonne le mouvement de gronde contre la réforme des retraites a proposé chaque jour des mobilisations thématiques. Tout a commencé donc mardi dernier par des blocages, des ronds-points à Ussel, à Tulle et à Brive où je me suis rendu et où j'ai croisé Hélène, 31 ans. Elle est infirmière libérale et son avenir en tant qu'infirmière l'inquiète.
Jusqu'à la retraite, je le vois difficilement, même si je suis jeune, mais je pense que le corps physiquement va être en souffrance et ça va poser des soucis d'incapacité, d'invalidité qui seront encore plus une charge pour la sécurité sociale.
Un petit peu plus loin sur le même rond-point, c'est Frédéric qui est, elle, tout aussi inquiète pour ce même avenir.
Je suis maman de 4 enfants, j'ai 50 ans, je devais partir à 58, il va falloir que j'aille jusqu'à 64, voire 63, si poursuivre sur la même lancée. J'ai eu des gros problèmes de santé, déjà si j'arrive à 64... J'en serai très heureuse, mais bon, malheureusement, on ne peut pas savoir. Alors, j'ai pas un métier qui est éreintant, hein, comptable. Je suis assise toute la journée sur une chaise. Par rapport aux problèmes de santé que j'ai eus, je me demande si j'aurai la force de continuer, quoi.
Reste néanmoins que ce mardi, une petite centaine de personnes étaient présentes.
Ah oui, ce n'était pas vraiment la foule.
C'est vrai Thomas, tout simplement parce que l'intersyndicale a parlé de blocage des ronds-points. De fait, les autorités ont préféré installer des déviations afin de libérer le trafic routier. Mais l'après-midi, que ce soit à Brive, à Tulle ou à Ussel, plusieurs milliers de personnes se sont rejoints dans les cortèges pour ce qui était l'une des plus grosses mobilisations dans le département depuis le début du mouvement, il y a un mois maintenant.
Et mercredi matin alors, c'était une autre ambiance ?
Oui, en quelque sorte, parce que cette fois, l'intersyndicale a vraiment ciblé la zone d'activité de l'Aiguillon à Ussac. C'est cette grande zone située le long de l'autoroute A20 où sont installées les plateformes de transport et de logistique. Et là, la mobilisation a commencé dès 3h du matin. Joe est un ancien routier à la retraite depuis le 1er janvier dernier. Il a 60 ans, dont 39 années passées derrière le volant de son 44 tonnes. Un métier éreintant selon lui.
Enfin, c'est un boulot comme un autre, quoi. Mais bon, voilà, il faut quand même être attentif au volant d'un 44 tonnes. Quoi. Mais bon, c'était bien parce qu'il n'y en a personne sur le dos, quoi. On est un peu libre, enfin il y aura un peu libre. Une fois qu'on est derrière le volant, voilà quoi. On a une tournée à faire, on l'a fait, et puis voilà. Maintenant on est pisté, maintenant les patrons à 150 mètres près, ils voient où est le camion. Quoi.
Et cette pression continuelle, l'homme ne la supportait plus à la fin.
En revanche, mercredi après-midi, l'ambiance était beaucoup plus bon enfant.
Oui, même si les motifs de colère restaient importants, parce que nous étions le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Autant dire qu'elles se sont véritablement mobilisées, à l'instar de Mélanie, 43 ans. Elle est prof d'anglais dans un collège.
Le carnet de route de M. Macron est particulièrement préjudiciable pour les femmes. Moi, compte tenu du nombre d'années d'études que j'ai faites, déjà, à l'heure actuelle, il faut que je parte à 67 ans, sans même que la nouvelle réforme soit passée. Et en plus, comme beaucoup de femmes, en fait, au moment où j'ai eu mes enfants, bah, pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur entrée dans la vie et dans ce monde, bah, en fait, j'ai pris un congé parental. Et donc, du coup, bah, voilà, ça, je vais trinquer d'autant plus. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais partir enseigner dans des classes à des enfants à plus de 70 ans. Est-ce qu'on est bien sérieux ?
Et pour les syndicats, cette journée du 8 mars était aussi l'occasion de parler des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail.
On se rend compte aussi que même dans le milieu du travail, il y a des femmes qui subissent des violences au travail, que ce soit verbales ou physiques.
Karine Prat-Escribe, déléguée CGT en charge de l'égalité hommes-femmes.
Ça commence à être pris en compte et petit à petit, on commence à être écoutés et beaucoup d'hommes... S'investissent aussi dans ce combat, entre guillemets. Oui, c'est un combat. Et je pense que ça avance.
Une avancée très relative quand même, parce que 70% des victimes restent silencieuses. Et lorsqu'elles en ont parlé, 40% d'entre elles se sont vues être mutées, placardisées, voire même licenciées.
C'est encore très compliqué pour elles, parce qu'elles ne savent pas si elles font bien déjà de s'afficher au sein du milieu du travail. Donc ça risque de compliquer la vie au travail pour elles aussi. Et elles ont du mal à le dire.
Des femmes qui réclamaient aussi une véritable égalité des salaires avec les hommes. Et enfin, jeudi matin, à Tulle, Olivier, les lycéens aussi ont rejoint le mouvement de grève.
C'est ça, le cortège comptait près de 200 personnes, dont une petite centaine de lycéens, à l'instar de Jade, 16 ans, lycéenne à Edmond-Perrier.
Plus tard, comment ça va être pour nous aussi? Parce que même s'il y a nos parents, nous aussi, ce sera la même chose. Donc oui, on s'inquiète forcément, parce que ce sera plus compliqué pour nous plus tard, mais... Mais bon, on va tout faire pour que ça change.
Un peu plus loin, Antoine est à Raymond Cassin et c'est la même inquiétude pour lui.
On a déjà peur de voir nos parents déjà comment ils sont, de voir qu'ils sont fatigués de travailler déjà à cet âge-là. Des fois, ça dépend des parents, mais ils peuvent pleurer. C'est vraiment très difficile pour eux et voir qu'ils vont encore travailler plus, sachant aussi pour nous, ça va être pareil parce qu'on a un quota d'années à faire de travail, sachant qu'on nous pousse à faire des études, mais après on nous la met à l'envers sur le fait qu'on va travailler plus longtemps.
Autant dire que pour ces lycéens qui ont vécu aussi l'école à distance durant la crise Covid, eh bien cet avenir qui s'assombrit leur fait peur et accentue encore plus leurs angoisses.
Des jeunes que l'on devrait retrouver samedi à Brive, Tulle et Ussel, puisque l'intersyndicale organise de nouvelles manifestations le matin. Autre rendez-vous contre la réforme, ce sera mercredi prochain dans les trois grandes villes de la Corrèze. Mais on vous en dira un peu plus dans l'info d'ici, le flash d'info diffusé tous les jours sur Bram FM et RGB.
Vous écoutez le quart d'heure corrézien sur Bram FM et RGB.
Nous en parlons maintenant depuis plusieurs semaines. Cet hiver est marqué par un épisode de sécheresse rarement atteint. Un mois sans pluie et la Corrèze n'est pas épargnée par ce phénomène. Thomas Vandendrich, c'est une situation exceptionnelle qui a poussé la préfecture à prendre des décisions qui le sont tout autant.
En effet, le comité de suivi de la ressource en eau se réunit tous les ans en début d'année pour faire un bilan de l'année écoulée. Mais cette fois-ci, il s'est beaucoup plus centré sur cet épisode de sécheresse hivernale. Et la situation de cette fin d'hiver préoccupe les différents acteurs de cette ressource hydrique, ce qui pousse le préfet Étienne Desplanques à élever le niveau de suivi pour prévenir en amont.
J'ai décidé d'augmenter le niveau de suivi. On passe maintenant au niveau vigilance. Alors ce niveau vigilance, ce n'est pas des restrictions, il n'y a pas d'interdiction, mais j'invite tous les Corréziens maintenant à limiter en tout cas leur usage de l'eau au quotidien, que ce soit pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, pour les agriculteurs, à faire preuve de civisme, parce que là on a besoin de préserver cette ressource au cas où nous n'aurions pas de pluie fin mars, début avril.
Un niveau vigilance qui représente un premier palier de suivi, certes, mais comme nous l'explique le préfet Étienne Desplanques, cela permet aussi de prendre des précautions qui peuvent se traduire par un certain nombre de restrictions si la situation se dégrade encore plus.
Le niveau vigilance impose pour nous un suivi beaucoup plus fin que ce que l'on fait habituellement. Donc on fera des relevés, notamment dans les piézomètres, dans les cours d'eau, beaucoup plus fréquents. Ça nous amènera peut-être, effectivement, à se réunir plus souvent, et notamment si la situation perdure, voire pour élever le niveau des mesures. Là, on est en niveau vigilance, sans mesure de contrainte, mais si la situation se dégrade, je n'écarte pas la possibilité d'accélérer les mesures de restriction.
D'accord Thomas, mais concrètement, qu'est-ce qui fait que la situation fait aussi peur aux élus et aux syndicats en charge de la gestion de l'eau?
Eh bien, comme nous l'explique très bien Philippe Brugère, maire de Meymac, ce sont les conséquences que cette sécheresse pourrait avoir sur la saison estivale qui préoccupe autant.
La situation 2023 me semble encore plus préoccupante que les années précédentes. Car à l'heure où on se parle, les rivières sont actuellement presque à leur niveau d'étiage de plein été les années précédentes. Donc, s'il ne pleut pas beaucoup au printemps, on va avoir un été extrêmement difficile à passer.
Philippe Brugère est aussi le président du parc naturel régional du plateau de Mille Vaches, une zone particulièrement touchée par les épisodes de sécheresse à répétition. Et cela fait plusieurs années maintenant que les habitants du plateau peuvent bénéficier de l'achat groupé de récupérateurs d'eau de pluie.
C'était des cuves jusque-là de 1000 litres que nous avions achetées. Et cette année, nous avons décidé de faire évoluer un petit peu le dispositif parce que ça a rencontré un très gros succès, des achats groupés. Et là, on va proposer un produit qui est un peu différent, qui est des citernes souples de 5 à 20 mètres cubes, donc avec une capacité beaucoup plus supérieure, et qui s'adressera à la fois aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises du territoire.
Une réponse adéquate à un problème majeur rencontré sur le plateau. Malgré ce que l'on pourrait croire, si l'eau est abondante sur le parc naturel, il n'existe pas ou très peu de nappes phréatiques, ce qui amène les communes à chercher l'eau dans le sol de surface et les expose naturellement aux carences pluviométriques.
Ici, nous avons des sources et des captages essentiellement de surface, et donc on est très sensible au stress hydrique dû aux sécheresses. Donc les collectivités sont assez rapidement en dette d'eau simplement pour l'alimentation, qu'elle soit humaine ou même l'alimentation du bétail. On voit les agriculteurs qui souffrent aussi énormément face à ça.
Le problème, c'est donc bien le manque de pluie. Pourtant, en cette fin d'hiver, il pleut. Tout le monde s'en félicite, certes. Mais est-ce que ça va suffire?
Eh bien là encore, non, parce que le printemps arrive à grands pas. Ce sera le 21 mars prochain et qui dit printemps dit aussi fin de somnolence de la végétation. Et pour repartir, les plantes ont besoin d'eau. Et ça aussi, ça risque d'aggraver la situation. Ça pose des questions sur la suite des événements, même à ceux auxquels on ne pense pas forcément. Comme Patrick Chabriange, c'est le président de la Fédération de pêche départementale.
Si on arrive comme l'année dernière à avoir pas d'eau, alors déjà que là on est dans un stade critique entre guillemets, quoi. Alors effectivement, les pluies qui vont tomber, bon, elles tombent. Je suis d'accord, donc les niveaux des cours d'eau vont augmenter. Mais après, on va avoir un autre phénomène aussi et qu'on voit tous les ans, c'est que les arbres vont émettre les feuilles. L'herbe va reprendre, enfin je vais dire, la nature se réveille. Donc effectivement, la nature se réveille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pompe dans les cours d'eau. Donc déjà là, on a un abaissement. Donc déjà, pas de précipitation, un abaissement des cours d'eau, la nature reprend son droit, un abaissement de cours d'eau. C'est vrai qu'on va peut-être retrouver la même problématique qu'on a eue l'année dernière.
Une situation que le pêcheur tient tout de même à relativiser. La situation pourrait être bien plus catastrophique.
Je ne dirais pas que les cours d'eau sont à un bon niveau. Non, ils sont à un niveau faible. Mais on ne constate pas de mortalité. Et on ne constate pas encore actuellement des assecs. Je veux dire, voilà, c'est même déjà, on aurait de la mortalité ou de la sec dans cette période-là. Ça serait une catastrophe.
Si cette crise est en soi sans précédent, la situation se règle généralement d'elle-même, d'une année sur l'autre, car il faut bien le dire, la nature est bien faite, mais le dérèglement climatique que l'on traverse actuellement pose question quant aux conséquences de la répétition de ces phénomènes dans la durée, et ça, Patrick Chabriange en a bien conscience.
On a des assecs de ruisseaux, quand l'eau revient dans ce cours d'eau, alors assec sur une certaine longueur, quand l'eau revient, les truites reviennent, les verrons reviennent, quoi. Et on ne l'explique pas. Alors on dit toujours la nature n'aime pas le vide, mais effectivement, depuis quelques années, on a l'impression que la nature n'aime pas le vide. Mais combien de temps ça va durer qu'elle n'aime pas le vide? Là, c'est une autre question où on n'a pas de réponse.
D'accord, donc on l'a compris, la sécheresse actuelle est très préoccupante, mais est-ce qu'elle touche tous les secteurs de la Corrèze de la même manière?
Ça, c'est une très bonne question, voyez-vous, parce que j'ai réussi à joindre Jean-Jacques Logat, le président du syndicat du Puy des Fourches-Vézères, ce syndicat qui alimente en grande partie l'agglomération de Tulle en eau potable. Cette fois, nous ne sommes pas sur le plateau. Le syndicat pompe l'eau directement dans le cours de la Vézère. Et l'été dernier, même si le niveau de la rivière était bas, le syndicat a pu compter sur l'aide extérieure, et notamment celle d'EDF.
On a pu continuer à pomper normalement sur la Vézère, sauf sur des périodes très courtes où nous avons demandé à EDF de lâcher l'eau nécessaire pour qu'on puisse respecter le débit minimum de la rivière.
Malgré tout, le distributeur d'eau s'inquiète également, surtout pour ses confrères, qui sont pour la plupart dans des situations bien moins confortables que la sienne.
Il y a certainement des syndicats qui prennent de l'eau de source ou dans des rivières plus petites. Il est certain que si le niveau d'eau est très bas, il y aura des problèmes de distribution d'eau.
En bref, pour résumer, l'eau est une ressource de plus en plus rare. La sécheresse hivernale que l'on connaît cette année le prouve encore un peu plus. Tout le monde n'est pas également touché par cette raréfaction. Raison de plus, je dirais, pour prendre conscience dès à présent de l'importance d'être vigilant à notre consommation. Les bons gestes à prendre, vous les connaissez déjà. Je vous en donne quelques-uns. Prendre une douche plutôt qu'un bain. Vérifier les fuites d'eau sur les canalisations ou encore éviter de laver votre voiture.
Vigilance donc, mais à l'heure actuelle, on le répète, aucune restriction quant à l'usage de l'eau n'a été prise. C'est la fin de ce 13e numéro du quart d'heure corrézien. On se retrouve la semaine prochaine sur Bram FM et RGB.
D'ici là, passez un bon week-end sur nos ondes en Corrèze.